Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Comment limiter le réchauffement de la planète? Réussir à respecter cet objectif majeur des accords de Paris? Rester bien en dessous de la barre des 2 degrés Celsius supplémentaires par rapport au niveau de température pré-industrielle? Ces dernières années, le monde a vu émerger un marché carbone, ou plutôt des marchés carbone, on va y revenir. Ceux d'entre vous qui ne ratent aucun des podcasts de l'IDRI se souviennent qu'on a décrit récemment ce que sont les compensations carbone, un système qui permet au secteur privé, à des entreprises, de financer des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dont elles ne sont pas responsables pour compenser leurs propres émissions de CO2. C'est ce qu'on appelle le marché carbone volontaire. Et bien aujourd'hui, on élargit notre regard en y incluant les autres acteurs économiques mondiaux, les États et quelques secteurs privés qui, eux, sont tenus de réduire leurs émissions. Et on va se poser ces questions: comment tous ces acteurs du marché carbone interagissent-ils entre eux? Comment ce marché carbone est-il régulé? Pour y répondre, je suis à nouveau accompagnée de Mathieu Vémar, avocat spécialiste des questions d'environnement et chercheur associé à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Mathieu Vémar.
Bonjour.
Il faut toujours commencer par les définitions. Ce qu'on appelle le marché carbone, c'est l'ensemble des instruments qui permettent de financer des activités de réduction de gaz à effet de serre.
Oui, pris d'une manière générique, c'est bien un marché. C'est-à-dire un lieu où il y a une offre et une demande qui se rencontrent, donc il y a les transactions et qui portent sur différentes choses, notamment des droits d'émettre ou de compenser les émissions de gaz à effet de serre, des quotas, des droits, des crédits, des certificats par exemple.
Et donc on avait déjà décrit le fonctionnement du marché carbone volontaire qui concerne les entreprises, mais il n'y a pas un seul marché carbone. Qui sont les autres acteurs?
Il y a plusieurs marchés, effectivement. À côté du marché carbone volontaire, il y a des marchés régulés, soit au niveau national ou régional, comme par exemple le système européen d'échange de quotas de gaz à effet de serre, ou au niveau international, comme les mécanismes de marché prévus par l'article 6 de l'accord de Paris, qui ont pris d'ailleurs la suite des mécanismes du protocole de Kyoto. Et puis, il y a aussi des mécanismes internationaux, mais plus sectoriels, qui sont également régulés, comme pour le transport aérien international, avec le mécanisme CORSIA qui a été mis en place par l'Organisation internationale de l'aviation civile.
Donc, chacun de ces marchés obéit à ses propres règles.
Oui, chaque marché a ses propres règles. Le marché carbone volontaire, on l'avait vu, fonctionne avec des standards privés et il obéit essentiellement à la loi du contrat. Les autres marchés régulés obéissent donc à des règles juridiquement obligatoires qui sont édictées par des gouvernants, éventuellement dans un cadre international ou européen.
Alors ces marchés volontaires et régulés évoluent finalement sur le même terrain, parfois sur les mêmes projets. Est-ce qu'ils sont articulés entre eux? Est-ce qu'ils interagissent?
En fait, ils poursuivent tous un même but, à savoir d'inciter des acteurs publics ou privés à réduire leurs émissions ou à financer des activités de réduction. Mais jusqu'à présent, ils fonctionnaient de manière relativement autonome. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus connectés les uns avec les autres. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, tous les efforts et donc toutes les réductions qui peuvent en résulter sont bonnes à prendre pour sauver le système climatique. Et aussi, il est important de pouvoir mesurer et donc de comptabiliser tous les résultats, donc ces réductions qui sont obtenues à travers les différents marchés. Et donc, on a certaines entreprises qui achètent des crédits carbone qui viennent d'un marché régulé, mais à des fins de compensation volontaire. Pourquoi? Parce qu'elles veulent montrer qu'elles soutiennent les efforts de la communauté internationale en utilisant des instruments de marché plus intègres sur le plan environnemental, parce que régulés, justement. Mmh. Et à l'inverse, un pays peut très bien décider que les projets du marché carbone volontaire soient soumis au marché carbone régulé de l'accord de Paris pour être utilisés soit par d'autres pays, soit par des compagnies aériennes pour remplir leurs obligations dans le cadre de l'accord de Paris.
Alors, est-ce que vous pouvez, si on revient un peu aux sources, nous expliquer comment se sont mis progressivement en place ces instruments de marché entre les États, d'abord dans le cadre du protocole de Kyoto, vous le disiez, et aujourd'hui dans le cadre de l'accord de Paris?
Oui, c'est vraiment le protocole de Kyoto qui a lancé, je dirais, ces mécanismes au niveau international, sur insistance des États-Unis. Le but était d'inciter les pays industrialisés à financer des projets de réduction d'émissions dans les pays en développement. En contrepartie, ils avaient des crédits carbone qui leur permettaient de compenser leurs propres émissions et de tenir leurs objectifs chiffrés de réduction qui étaient juridiquement obligatoires pour eux, alors que les pays en développement, eux, n'avaient pas d'obligation de réduction dans le cadre du protocole de Kyoto. Et ça a marché. Il y a eu beaucoup de projets à Kyoto pour une raison simple, c'est que les coûts de réduction étaient plus faibles dans les pays en développement. Donc pour les pays développés, ça coûtait beaucoup moins cher d'aller obtenir des réductions d'émissions dans ces pays-là, à un rapport donc de coût-efficacité bien plus intéressant que chez eux pour compenser leurs propres émissions et se conformer ainsi à leurs obligations
dans le cadre du protocole de Kyoto. Tout le monde y trouvait son compte.
Oui, tout à fait. Et voilà, et bon, il faut quand même le rappeler, parce que ces financements par le marché venaient en plus de ceux que les pays devaient fournir dans le cadre d'une coopération plus classique aux pays en développement. Et c'est un peu la même logique qu'on retrouve dans l'accord de Paris. La seule vraie grosse différence, c'est que dans le cadre de Kyoto, les pays en développement n'avaient pas d'obligation de réduction, alors qu'aujourd'hui, dans l'accord de Paris, tous les pays prennent des engagements de réduction. Donc tous les pays doivent comptabiliser ce qu'ils font, leurs émissions et les réductions générées sur leur sol, pour savoir s'ils ont bien tenu leurs engagements. Donc s'ils vendent quelque chose à quelqu'un d'autre, et notamment des réductions à un autre pays ou une entreprise, ils doivent les déduire des émissions qu'ils vont comptabiliser, donc revendiquer, pour démontrer qu'ils ont bien tenu leurs engagements. Et donc, on n'a plus de compensation au sens de Kyoto, mais de déplacement de réduction d'émissions d'une zone à une autre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rentrer un peu dans le détail de ce que prévoit cet article 6 des accords de Paris ? Est-ce que vous pouvez nous décrire simplement cet instrument ?
Alors, il y en a deux dans l'article 6 qui sont fondés sur le marché carbone. La première, c'est ce qu'on appelle les démarches concertées dans le cadre de l'article 6.2, où en fait, des pays peuvent transférer au niveau international à un acheteur ou plusieurs acheteurs ce qu'on appelle des résultats d'atténuation, mais ce sont en fait la plupart du temps des réductions d'émissions, pour les utiliser afin d'atteindre les engagements qu'ils ont pris au niveau national. Donc c'est une approche décentralisée. Les pays qui participent définissent eux-mêmes les conditions pour produire ces résultats, donc ils ont une grande marge de manœuvre. Le cadre international, in fine, il ne s'intéresse qu'à une seule chose, c'est l'impact de ce transfert. Pourquoi ? Pour s'assurer qu'il n'y aura pas de risque de double comptage. Et c'est pour ça que l'accord de Paris prévoit que toute utilisation de tels résultats par un autre pays ou par une entreprise doit être impérativement autorisée pour qu'on puisse savoir à quoi ces réductions d'émissions vont être utilisées dans un autre pays. Et lorsque un tel transfert est autorisé, on applique ce qu'on appelle un ajustement correspondant. Ça consiste à quoi cet ajustement correspondant ? En fait, à déduire les résultats d'atténuation d'un côté et de les ajouter de l'autre.
Ouais, comme dans un livre de compte, quoi.
Exactement, c'est un déplacement en fait de réduction d'émissions. La seconde approche repose sur la création d'un nouveau mécanisme international prévu par l'article 6.4 de l'accord de Paris. Cette fois-ci, c'est un mécanisme centralisé qui est géré par les Nations Unies, avec un organe qui supervise toutes les étapes de processus permettant d'obtenir des réductions d'émissions, qui auront un tampon des Nations Unies, et donc une grande crédibilité en termes d'intégrité environnementale et de soutien aux objectifs de l'accord de Paris. En fait, c'est vraiment un mécanisme qui se rapproche beaucoup du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, sauf que, une fois qu'on a généré à travers ce mécanisme des réductions d'émissions, lorsqu'on les transfère vers un autre pays ou vers une entreprise, à ce moment-là, on retrouve les règles de l'article 6.2 et on appliquera l'ajustement correspondant pour éviter tout double comptage des émissions.
Oui, ce système, en somme, il permet d'éviter ce double comptage, d'éviter que des réductions de gaz à effet de serre soient revendiquées dans les livres de compte, on pourrait dire, de deux pays.
Oui, c'est ça. On va comptabiliser les réductions qui sont utilisées. Et donc, s'il y en a qui sont utilisées ailleurs que chez soi, dans ces cas-là, il faut pouvoir suivre où et comment elles vont être utilisées. Et pour ça, en fait, on va demander une chose aux pays qui accueillent ces activités, c'est de délivrer une autorisation pour que ces réductions d'émissions puissent être utilisées et donc transférées ailleurs. Et c'est parce qu'elles sont autorisées qu'on va appliquer l'ajustement correspondant. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'ajustement correspondant. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'ajustement correspondant va se faire à la fois dans le pays hôte et dans le pays acheteur. On enlève les réductions des émissions que le pays hôte veut comptabiliser pour montrer qu'il a tenu ses engagements, et on les ajoute à celles du pays acheteur que lui va pouvoir revendiquer pour montrer qu'il a tenu ses propres engagements. Donc c'est vrai que le pays vendeur a moins de réductions d'émissions à faire valoir, mais il a obtenu un financement sur lequel il n'aurait pas pu obtenir ces réductions. Et de son côté, le pays acheteur a plus de réductions d'émissions à faire valoir. Ce n'est pas lui qui les a générées chez lui, mais il les a achetées. Mais il peut revendiquer aussi d'avoir financé une activité dans un autre pays, notamment un pays en développement.
Vous avez un exemple concret à nous donner pour qu'on comprenne bien ce mécanisme ?
Oui, parce que il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en ce moment, notamment, par exemple, un accord bilatéral entre le Pays-Bas et le Burkina Faso pour le déploiement de plusieurs milliers de foyers améliorés dans les ménages burkinabé, qui vont permettre, grâce à des fours qui seront beaucoup plus efficaces sur le plan de la consommation d'énergie, de réduire la pression sur la forêt, parce qu'il y aura moins de consommation de bois de feu. Et donc, l'accord qui va être conclu entre le Burkina et les Pays-Bas va définir les modalités pour justement produire, fabriquer en fait ces réductions d'émissions à travers cette activité qui sera financée donc par les Pays-Bas, mais également prévoir l'ajustement correspondant, c'est-à-dire que l'autorisation sera bien donnée par le Burkina pour le transfert et l'utilisation par les Pays-Bas des réductions d'émissions chez lui.
Et donc, ils ne seront pas comptabilisés dans le livre comptable du Burkina.
Exactement, okay. Exactement, qui cette fois-ci seront comptabilisés au bénéfice des émissions des Pays-Bas. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup de pays qui sont très intéressés par ce qu'on appelle ces démarches concertées. Et notamment le Japon, Singapour, la Norvège et la Suisse sont très actifs sur ce marché-là.
Pour finir, c'est important de reparler ici du greenwashing. On avait vu que le marché volontaire celui des entreprises était critiqué parce que les réductions d'émissions revendiquées n'étaient pas toujours vérifiables ou réelles. Ce risque d'éco-blanchiment, pour parler français, prend peut-être une nouvelle dimension ici, notamment parce que ces marchés volontaires et régulés travaillent de plus en plus souvent ensemble sur des mêmes projets, avec un risque de double comptage quelquefois, ce qui pourrait nuire in fine à la crédibilité du bilan comptable.
Tout à fait. Et ça dépend vraiment du choix que vont faire les pays. On leur renvoie beaucoup cette responsabilité de décider si oui ou non ils vont soumettre des activités de réduction, y compris celles du marché carbone volontaire, à l'article 6, donc à une autorisation. Si c'est oui, alors on évite le double comptage. Et il faut rester vigilant. Ce n'est pas pour ça qu'on écarte toutes les faiblesses d'un standard du marché carbone volontaire avec une méthodologie qui continuerait de faire planer des doutes sur le caractère réel et mesurable des réductions d'émissions. Mais si ça n'est pas le cas, imaginons que le pays ne soumette pas autorisation de ses activités, à ce moment-là, il va compter les réductions d'émissions chez lui et une entreprise privée qui va acheter ces réductions pourra les revendiquer pour la compensation de ses propres émissions chez elle. Et donc là, on aura des réductions qui sont comptées deux fois.
C'est grave ?
Ça dépend comment on voit les choses. Certains pensent que ça ne pose pas de problème, puisque c'est que les États qui ont des obligations dans l'accord de Paris, ce n'est pas les entreprises. Il y en a d'autres, et je pense que j'en fais partie, qui pensent que toutes les émissions devraient être prises en compte à tous les niveaux, États et entreprises, pour garantir une neutralité carbone. Parce que les États ne vont pas faire tout seuls. Ils vont avoir besoin de l'ensemble des acteurs économiques qui, eux-mêmes, prétendent prendre des trajectoires de neutralité carbone à leur niveau. Et donc, toutes les émissions doivent être comptabilisées. Mais in fine, on voit que le pays hôte a un rôle important à jouer. C'est lui qui va décider ou non de soumettre les activités à l'article 6 et entraîner un ajustement correspondant. Mais on voit aussi que certains pays décident de laisser le choix aux acheteurs et de demander à ce qu'il y ait un ajustement correspondant suite à un transfert international des réductions d'émissions.
Donc, responsabilité partagée.
Oui, en tout cas, l'acheteur a un rôle à jouer, et aussi pour éviter l'éco-blanchiment. Que ce soit un État ou une entreprise, que ce soit à des fins de conformité réglementaire ou volontaire, en fait, l'acheteur peut choisir, dans beaucoup de pays, justement un ajustement correspondant pour éviter tout double comptage, donc on ne pourra pas le critiquer là-dessus. Mais en plus, il pourra s'assurer, si c'est dans le cadre de l'article 6, qu'on va utiliser un standard qui soit rigoureux et qui va éviter tout éco-blanchiment en termes de production de réduction d'émissions.
Et on comprend bien en vous écoutant que cette exigence d'intégrité environnementale, elle est indispensable pour contribuer aux efforts globaux d'atténuation pour pouvoir les mesurer précisément dans le cadre de l'accord de Paris, avec toujours cet objectif, je le rappelle, à long terme, limiter le réchauffement bien en deçà de 2 degrés Celsius et de tendre même vers les 1,5 degrés Celsius. Merci beaucoup Mathieu Vémard.
Merci.
Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IDRI, avocat spécialisé sur les questions environnementales. À bientôt.
À bientôt.
C'est la fin de ce coup de projecteur sur la régulation du marché carbone et l'articulation entre ces différents acteurs. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ainsi que sur LinkedIn et Twitter. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.